Nous allons reprendre. Donc, nous en étions arrivés à l'achèvement de la négociation sur le redéploiement israélien en Cisjordanie. Alors, une fois donc, premier point, donc, qui est l'entente sur la division en trois zones. Reste à régler la question du transfert des pouvoirs civils qui passe par un véritable pinaillage sur les détails révélateurs des dimensions prises par l'occupation israélienne. Ori Savir en a fait un portrait révélateur, je cite. Ces négociations qui portaient sur les pouvoirs qu'Israël avait exercés pendant toute une génération me faisaient découvrir tout un monde. Au fil des ans, les Israéliens avaient créé et cultivé un mythe bien utile qui présentait notre occupation comme une occupation éclairée. Je savais que c'était une contradiction dans les termes, mais j'ignorais, comme je pense beaucoup d'Israéliens, à quel point nous avions envahi l'existence de nos voisins palestiniens. Nous nous cachions cette vérité au point que nous étions sans doute les seuls conquérants de l'histoire, de l'humanité, à avoir l'impression d'avoir été conquis. L'image que nous avions de nous-mêmes, société humaine et juste, et en même temps victime éternelle de l'histoire, ajouté à l'antagonisme arabe, nous rendait aveugle à ce qui se passait dans les territoires occupés. Je découvrais que les Palestiniens de Cisjordanie ne pouvaient construire, travailler, étudier, acheter des terres, les cultiver, créer une entreprise, se promener le soir, entrer en Israël, aller à l'étranger, rendre visite à de la famille à Gaza ou en Jordanie, sans que nous leur ayons préalablement accordé un permis. L'appareil nécessaire à la gestion de cette pieuvre était énorme. Certaines de ces restrictions découlaient de préoccupations légitimes concernant la sécurité, mais la plupart étaient les produits de l'inertie et d'une bureaucratie galopante, monstre tentaculaire nourri par un budget illimité. Pendant 28 années d'occupation, environ un tiers des Palestiniens des territoires occupés avaient à un moment ou un autre été détenus ou emprisonnés en Israël, par Israël. La population dans son ensemble avait, quant à elle, été grossièrement humiliée par Israël. À présent, on demandait aux fonctionnaires qui gouvernaient les Palestiniens de transmettre leur pouvoir à ceux qu'ils avaient en tutelle. Cela leur était très pénible, tant d'un point de vue conceptuel que d'un point de vue émotionnel. À Eilat, nous étions en train de démanteler l'occupation, mais certains d'entre nous avaient du mal à s'adapter à ce changement. Certains de ces administrateurs trouvaient presque insupportable de s'asseoir à Eilat, à la même table que ceux qui représentaient leur sujet. Nous étions depuis si longtemps engagés dans un processus de déshumanisation que nous pensions réellement plus égaux. En même temps, comme nous nous sentions menacés, nos hésitations s'en trouvaient justifiées. Le groupe qui négociait le transfert des pouvoirs civils ne se rebellait pas contre son mandat, mais à chaque fois que nous faisions une concession ou acceptions un compromis, nos hommes avaient tendance à commencer toutes leurs déclarations par « Nous avons décidé de vous autoriser à... » Fin de citation. Et on voit donc la difficulté mentale de mettre fin à l'occupation. Le 21 août 1995, un nouvel attentat suicide dans un autobus israélien à Jérusalem fait 6 morts, dont le porteur de bombes, et de nombreux blessés. Les négociations ne sont interrompues que pendant une journée. Rabin reconnaît la coopération de l'autorité palestinienne. Dans une certaine mesure, cette guerre est aujourd'hui livrée en coopération avec l'autorité palestinienne contre des gens qui sont aussi ses ennemis. Il est grand temps de distinguer entre ceux des Palestiniens qui se livrent au terrorisme et ceux qui cherchent avec nous une solution politique. Nous continuerons de lutter avec toutes nos forces contre les premiers et coopérons avec les seconds. L'attentat semble avoir été commis par une femme, ce qui est contraire aux procédures habituelles du Hamas, qui a pourtant revendiqué l'opération. Les islamistes ont cessé de communiquer les testaments des martyrs, ce qui facilitait le travail de renseignement israéliens et éventuellement aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales. Ça, c'est que je rajoute. Rabin met en cause la direction extérieure des mouvements islamistes établis à Damas, accusant implicitement le régime syrien de complicité. En même temps, il insiste sur le fait que ces deux derniers attentats ont été commis par des éléments venus de Cisjordanie, c'est-à-dire en dehors de la responsabilité de l'autorité palestinienne. C'est ce qui démontre l'enquête qui a conduit au démantèlement du réseau concernant appartenant à la mouvance du Hamas. Les personnes arrêtées auraient été formées par Yahya Hayash, maintenant posées comme l'ennemi numéro un. Des dizaines d'activistes du Hamas sont arrêtés en Cisjordanie. La police d'Arafat s'engage à le rechercher dans la bande de Gaza. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent tout aussi bien le Shin Bet israélien que les services de sécurité préventive palestiniens d'utiliser différentes méthodes arbitraires de violence et de torture. Le 27 août, un protocole sur le transfert de 8 domaines d'activité à l'autorité palestinienne est signé au Caire. Cela concerne l'agriculture, le commerce et l'industrie, les assurances, le travail et la main-d'œuvre, les affaires municipales, les services postaux, les carburants et les statistiques. En même temps, 3 institutions palestiniennes sont fermées à Jérusalem-Est, puis on trouve un compromis. Les dirigeants de l'Office palestinien de radiodiffusion du Conseil de la statistique et de celui de la santé doivent s'engager à n'avoir aucun contact ni aucun lien financier ou autre avec le gouvernement d'Yasser Arafat à partir de Jérusalem. En Israël, l'opposition de l'extrême droite et des colons crée un climat de tension. On commence à s'inquiéter du risque d'attentat contre des personnalités gouvernementales, en particulier le Premier ministre. Ces derniers estiment que les extrémistes israéliens font le jeu du Hamas, qui considère que les extrémistes de droite israéliens qui appellent à l'arrêt du processus de paix comme une sorte d'outil pour parvenir à réaliser ses objectifs. Au Liban Sud, la tension est très forte après la mort de plusieurs combattants du Hezbollah. L'armée israélienne menace de s'en prendre à la population civile libanaise en cas de tir sur la Galilée. Cette fois, la dissuasion réciproque joue, et on n'entre pas dans le cycle infernal des représailles et contre-représailles. En Libye, le colonel Kadhafi décide l'expulsion de 15 000 Palestiniens pour démontrer la vanité de l'autonomie palestinienne. Les pays arabes refusent de les recevoir. Ainsi, le Liban coupe toutes les communications avec la Libye dans ce but. Il n'est pas question d'autoriser le retour de gens disposant d'une autorisation de séjour au pays des cèdres. Sur ce point, le consensus libanais est total. Les chiites ou chrétiens refusent toute implantation taoutine palestinienne. De même, l'Égypte ferme sa frontière avec la Libye et un certain nombre de familles palestiniennes se trouvent enfermées dans le No Man's Land entre les deux pays. Elles sont prises en charge par la Croix-Rouge internationale et vont rester de nombreux mois, plus d'un an, enfermées dans le No Man's Land entre les deux pays. Les relations égypto-israéliennes connaissent une crise à la suite de la publication par la presse israélienne de témoignages concernant les exécutions sommaires de prisonniers égyptiens par l'armée israélienne en 1956 et 1967. L'Égypte demande une enquête, ce que refuse Israël, qui menace de rendre public des turpitudes égyptiennes, sans les mentionner, mais tout le monde pense probablement à l'usage de gaz de combat par l'armée égyptienne durant la guerre du Yémen. Il reste à traiter les questions les plus difficiles. En ce qui concerne l'eau, il n'est pas question pour Israël de modifier la répartition actuelle entre Israéliens et Palestiniens. Tout au plus, ces derniers pourraient disposer de ressources additionnelles si on en trouve. À son habitude, Peres évoque de mirifiques perspectives de dessalement de l'eau de mer à Gaza, à condition de le faire financer par la communauté internationale. Peres est toujours très fort pour faire financer ses projets par les autres. Pour Hébron, il faut trouver une formule permettant de maintenir les 400 colons extrémistes dans la ville sous protection militaire israélienne tout en donnant aux 120 000 habitants palestiniens un statut équivalent à celui des habitants des autres grandes villes. La question est exacerbée par les exactions des colons contre la population arabe, n'hésitant pas à aller jusqu'à l'assassinat. La population palestinienne contre le sort qu'on lui prépare la population palestinienne proteste contre le sort qu'on lui prépare et une sorte de mini-intifada, limitée à Hébron, se déroule dans la ville, comme vous pouvez voir sur la photo. Il y a aussi la question du vote des habitants de Jérusalem-Est aux élections palestiniennes et les compétences de l'autorité palestinienne sur la zone C. Denis Ross participe régulièrement au débat et trouve des propositions de compromis qui sont souvent de simples questions de vocabulaire. Il exerce des pressions sur la partie palestinienne, affirmant que le Congrès, faute d'accord, évoquerait l'autorisation pour l'OLP d'avoir un bureau à Washington. Un chantage identique est exercé sur l'aide financière américaine à l'autorité palestinienne. La nouvelle date butoir est le 24 septembre. Le lendemain commence le cycle des fêtes juives qui renverrait la conclusion au mois d'octobre. Comme on négocie au bord du gouffre, il ne peut être question d'une signature à Washington le 21 septembre comme cela avait été initialement prévu. C'est qu'une fois obtenu un accord sur Hébron, on en arrive à l'heure de vérité. La partie israélienne présente la carte du redéploiement. La zone A couvre 3% de la Cisjordanie, la zone B 19% et la C le reste. En colère, Arafat quitte la salle de négociation. Les Palestiniens menacent de mettre fin à la discussion. Les Israéliens jettent du lest et augmentent la zone B de 19 à 24%. Il reste encore à régler un certain nombre de détails, en particulier la question du passage des policiers palestiniens de la zone A à la zone B. Ils devront obtenir l'autorisation préalable des autorités militaires israéliennes. Et on trouve aussi un certain nombre d'euphémismes pour couvrir les conditions draconiennes imposées aux Palestiniens, ce qui permet de paraffer l'accord le 25 septembre avant le début des fêtes juives. Donc cet accord qui entrera dans l'histoire sous le nom d'Oslo II. Comme il se doit, l'accord est salué positivement par la communauté internationale et condamné par l'opposition palestinienne. Le Hamas avertit que son combat continuera jusqu'à la libération de tous les territoires palestiniens occupés. La radio syrienne donne le ton des critiques. L'accord ne peut pas durer puisque la terre est toujours occupée et les droits spoliés. Cet accord a été conclu aux dépens de la partie palestinienne qui a subi de fortes pressions et accepté les contraintes et les humiliations. Il conduira à la remise en cause du problème de Jérusalem et de la question palestinienne. Fin de citation. La Syrie ne signera jamais un accord de ce genre. Seuls dans la région, la Jordanie, l'Égypte et le Qatar donnent une approbation franche. La direction palestinienne défend le texte qui constitue un pas en avant et qui ouvre la voie à la libération de milliers de prisonniers palestiniens, mais le sentiment populaire en Cisjordanie est nettement hostile, en particulier à Naplouse et à Hébron, où l'intifada semble avoir repris. Avant la signature à Washington, il faut obtenir l'approbation des instances représentatives. Le comité exécutif de l'OLP réuni à Tunis l'entérine en l'absence des opposants qui ont refusé de participer à la réunion. Le même jour, le gouvernement israélien donne son approbation par 16 voix contre 2. Rabin se félicite publiquement du processus de séparation des deux peuples et de la fin de l'hallucination du Grand Israël. L'entité palestinienne ne sera plus sous notre pouvoir, mais elle n'aura pas non plus les frontières d'avant 1967. La diplomatie américaine a préparé une grande cérémonie de signature à Washington avec, outre les intéressés, Hosni Moubarak et le roi Hussein. L'Europe est représentée par le premier ministre espagnol Felipe González, président en exercice de l'Union européenne. Denis Ross a multiplié les pressions pour qu'Arafat ne recommence pas la scène du Caire quand il a refusé de signer l'accord Gaza-Jéricho. Néanmoins, il faut régler dans la précipitation quelques points obscurs du document. Les discours reprennent les thématiques déjà entendues sur la paix et la réconciliation. Clinton appelle à une prochaine participation de la Syrie et du Liban à un accord de paix. Alors, maintenant, il nous faut étudier l'accord. Donc, ça va être un peu long, je suis désolé. Le document rédigé en anglais fait plus de 400 pages avec ses annexes. Il a été conclu entre le gouvernement de l'État d'Israël et l'OLP, représentant du peuple palestinien. Encore une fois, le mot « people » est utilisé de façon à pouvoir dire en même temps « le peuple » ou « les gens ». Le préambule renvoie au cadre du processus de paix initié à Madrid en octobre 1991 et affirme que le but est d'établir une autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire. Les Israéliens n'ont pas le terme palestinien d'autorité nationale palestinienne, mais le terme de simplement autorité palestinienne d'autogouvernement. On refuse à Arafat le terme de président et on utilise l'équivalent arabe Aïs, puisque Arafat n'accepte pas le titre de chairman. En revanche, le texte utilise West Bank, Cisjordanie et non pas Judée-Samarie, selon l'usage israélien. Ce qui est un tournant majeur par rapport à l'insistance de la droite israélienne d'utiliser Judée-Samarie. La déclaration de principe utilisait territoire qui n'était pas soumis à l'administration israélienne avant 4 juin 67, tandis que là, on parle de Cisjordanie. Mais pas la Cisjordanie au sens jordanien du terme d'avant 67 qui comprenait Jérusalem. Donc, on va procéder à des élections directes et libres en Cisjordanie et à Jérusalem. On ne mentionne pas Jérusalem-Est. Les Palestiniens à Jérusalem sont assimilés à une catégorie de résidents étrangers sur une partie du territoire israélien. On s'engage à agir immédiatement, efficacement et effectivement contre les actes ou les menaces de terrorisme, de violence ou d'incitation, qu'ils soient commis par des Palestiniens ou des Israéliens. Ensuite, on passe au chapitre 1, où il est bien marqué que les compétences du Conseil élu de l'autorité palestinienne sont des transferts des compétences du gouvernement militaire israélien. L'autorité palestinienne jouera des compétences du Conseil tant que ce dernier n'aura pas été constitué. Une fois que le Conseil sera entré en action, l'administration civile en Cisjordanie sera dissoute et le gouvernement militaire israélien retiré. Mais si le gouvernement militaire se retire, il continuera d'exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transmis. Des comités conjoints de coordination pour les affaires civiles sont établis à différents niveaux. Les élections se tiendront à la première date envisageable, consécutive au redéploiement des forces israéliennes. Le Conseil jouira des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette non-séparation des pouvoirs est le compromis entre la vision israélienne d'un simple exécutif administratif et la palestinienne d'une assemblée législative. Le Conseil et le Raïs seront élus pour une période intérimaire ne devant pas excéder 5 ans à partir de la signature de l'accord Gaza-Jéricho. Le Conseil élira un speaker, c'est-à-dire un président. L'organisation, la structure et le fonctionnement du Conseil seront en conformité avec cet accord et avec la loi fondamentale de l'autorité palestinienne de tout gouvernement intérimaire, laquelle sera adoptée par le Conseil. Le Conseil sera composé de 82 membres. Il sera doté d'une autorité exécutive investie par le Conseil. Elle sera composée du Raïs élu et des membres du Conseil. Elle pourra comprendre 20% de membres non élus. Les membres non élus de l'autorité exécutive doivent avoir une adresse valable dans une région placée sous la juridiction du Conseil, ce qui veut dire qu'on exclut les Palestiniens de Jérusalem et ceux de la diaspora. Les pouvoirs du Conseil sont ceux définis par l'accord ou par des accords postérieurs, c'est-à-dire ceux transférés par Israël. Le Conseil ne dispose pas de compétences en matière de politique étrangère. L'OLP négociera au bénéfice du Conseil des accords économiques, culturels et scientifiques. Le chapitre 2 comprend le redéploiement et les arrangements de sécurité qui seront achevés 22 jours avant la date des élections palestiniennes. Ensuite, des redéploiements ultérieurs de forces militaires israéliennes vers des sites de sécurité spécifiques commenceront après l'entrée en fonction du Conseil et seront progressivement mis en œuvre au fur et à mesure de la prise de responsabilité de la police palestinienne pour l'ordre public et la sécurité intérieure et devront être achevés dans les 18 mois suivant la date d'entrée en fonction du Conseil. L'Israël continuera à assumer la responsabilité de la sécurité extérieure ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public. Autrement dit, les colons ne seront pas sous la jurisprudence, enfin sous la souveraineté de l'autorité palestinienne. La définition territoriale est posée de façon contradictoire. D'une part, on maintient l'intégrité territoriale, je cite, les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont le statut et l'intégrité seront préservés pendant la période intérimaire. D'autre part, Les deux parties conviennent que le territoire de la bande de Gaza, à l'exception des questions issues, des questions en anglais issues, qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent, passera sous la juridiction du Conseil palestinien à travers des étapes qui devront être achevées dans les 18 mois suivant l'entrée en fonction du Conseil. C'est là où on passe à la division en trois zones de l'autorité de la Cisjordanie. Dans les zones A et B, que vous voyez sur la carte, le Conseil aura juridiction sur les terres domaniales et les biens waqf, biens religieux de main morte. Dans la zone C, il n'aura que des pouvoirs et des responsabilités dans le domaine civil qui ne sont pas liés au territoire. Les redéploiements ultérieurs se feront par étapes de 6 mois durant 18 mois. Donc il y aura 3 redéploiements ultérieurs. Les sites militaires spécifiés pour ces redéploiements verront leur sort négocié au cours des négociations sur le statut permanent. Les colonies israéliennes seront dans la zone C. Le Conseil disposera d'une force de police forte en zone A. Ils ne disposeront de 25 Palestiniens disposeront de 25 postes de police dans la zone B et n'interviendront que dans les affaires entre Palestiniens. Les Israéliens contrôleront étroitement les mouvements de la police palestinienne. Il y aura des patrouilles conjointes sur des axes de circulation spécifiés. En mesure de construction de la confiance, Israël libérera des détenus et prisonniers palestiniens. La première étape à la signature, la seconde avant la date des élections, il y aura une troisième étape. En ce qui concerne les collaborateurs, je cite, « Les Palestiniens qui ont maintenu le contact avec les autorités palestiniennes ne seront pas exposés à des actes de harcèlement, de violence, de vengeance et de poursuite. Les mesures courantes appropriées seront prises en coordination avec Israël de façon à assurer leur protection. » Fin de citation. Les Palestiniens de l'extérieur dont l'entrée est approuvée ne seront pas poursuivis pour des délits commis avant le 13 septembre 1993. Ensuite, on aborde les questions légales, ce qui est un peu compliqué. Mais en clair, les Israéliens conservent un droit de veto sur toutes les décisions prises par le Conseil palestinien ou l'autorité palestinienne. Tous les différends devront être résolus par le biais du comité de liaison. En cas de désaccord, on trouvera des mécanismes de conciliation. En cas d'échec, on devra recourir à un arbitrage. Les relations économiques sont définies par le protocole de Paris et corps du même genre. Les négociations sur le statut permanent commenceront pas plus tard que le 4 mars 1996. On reprend une nouvelle fois la définition d'une situation intérimaire qui ne doit pas comprendre de faits établis. Je cite. Rien dans cet accord ne doit anticiper ou hypothéquer le résultat des négociations sur le statut permanent qui doivent être conduites en conformité avec la déclaration de principe. Aucune des deux parties ne peut être considérée comme ayant, du fait de son adhésion à cet accord, renoncé à ses droits, revendications, positions existantes, ou les ayant abandonnées d'une façon quelconque. Aucune partie ne devra prendre d'initiative ou de mesures qui changeraient le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en attendant le résultat des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité et le statut doivent être préservés durant la période intérimaire. L'ELP s'engage, dans les 2 mois après entrée en fonction du Conseil, à faire modifier la charte de l'ELP par le Conseil national palestinien. L'annexe 1 définit très précisément les compétences de la police palestinienne, son armement et son déploiement. Cela comprend l'accord sur Hébron. Le redéploiement israélien prendra en compte la nécessité de protéger les 400-450 colons israéliens. La ville sera donc divisée en une zone H1, où 400 policiers palestiniens à un moment limité pourront stationner, et une zone H2, où les Israéliens seront sous la protection de l'armée israélienne. La zone H2 comprend le quart de la population de la ville de 100 000 habitants et couvre l'essentiel du centre-ville, comme vous pouvez le voir sur la carte. Interprétation et application de l'accord. Les responsables palestiniens sont les premiers à reconnaître que Oslo II traduit la disproportion des rapports de force. C'est une Palestine en miettes, composée de petits cantons séparés, qui va échoir à l'autorité palestinienne. Si on y ajoute le protocole de Paris et les accords précédents, la gestion par les Palestiniens de leurs propres affaires est extrêmement limitée. Ils ne contrôlent ni le territoire qui est dépourvu de toute continuité territoriale, ni la définition de la population, puisqu'Israël a le droit de veto sur tout retour des Palestiniens, ni les échanges avec l'extérieur qui passent par la fiscalité israélienne. Si une grande partie de la population va se trouver libérée de la tutelle tatillonne de la pseudo-administration civile israélienne, la politique de la carotte et du bâton définie en 1967 se trouve perpétuée. Le gouvernement israélien peut à n'importe quel moment bloquer les déplacements des personnes et des biens, définir qui est un VIP palestinien disposant d'un traitement privilégié et qui ne l'est pas, geler les transferts de fonds en direction de l'administration palestinienne. Pourtant, l'accord ouvre un certain nombre de perspectives avec le renouvellement du calendrier. De nouveaux redéploiements sont prévus à des dates fixes. Les négociations sur le statut final sont annoncées à une date proche. Même si clairement Peres et Rabin ont pour dessein une forme renouvelée du plan Alon, aucun fait accompli n'a été reconnu pour la période intérimaire. Le dossier des grandes questions, Jérusalem, les lieux saints, les réfugiés, sont ouverts. Même si la question de la constitution de l'État palestinien n'est pas tranchée, l'autorité palestinienne va pouvoir chercher la consécration par les urnes, une administration est à constituer et une économie à bâtir. Oslo II bénéficie du soutien financier américain. Normalement, l'État hébreu aurait dû recevoir une pénalité de 303 millions de dollars sur les garanties bancaires de 10 milliards de dollars pour cause de dépenses en faveur des colonies en 1995. La pénalité a été réduite à 60 millions de dollars pour prendre en compte le coût du redéploiement israélien. Le 5 octobre 1995, la Knesset ratifie l'accord par 61 voix contre 59. Le premier ministre israélien doit faire face à la colère des partisans les plus radicaux du Grand Israël. On lui fait en permanence un procès en légitimité. Il n'a pas le mandat politique pour faire de tels abandons. Il a besoin de vote des députés arabes pour faire passer l'accord, donc il n'y a pas de majorité juive pour l'approuver. Il est l'homme des Arabes. On le représente couvert d'un keffieh palestinien. Puisque c'est un Arabe et un Palestinien, c'est donc un nazi. On va bientôt le représenter en costume SS. La stratégie de Rabin est de se poser en bâtisseur d'une paix pragmatique qui assure la sécurité et les intérêts d'Israël. Il rejette le symbolisme du grand Israël au nom de la paix en rappelant quelques vérités désagréables. Les Juifs ne sont pas retournés dans une terre vide d'habitants après des décennies de combats et de violences. Israël gouverne plus de 2 millions de Palestiniens, ce n'est pas une solution pacifique. On peut continuer à tuer et être tué ou choisir la paix. La solution permanente du conflit n'implique pas le retour aux frontières du 4 juin 67. Israël conservera le Grand Jérusalem, la vallée du Jourdain et un certain nombre de blocs de colonies dont il commence à dresser la liste. Il faut choisir entre un État juif et un État binational qui impliquerait la constitution de Grand Israël. L'accord préserve l'accessibilité des lieux saints juifs, en premier lieu le tombeau des patriarches à Hébron et le tombeau de Rachel à proximité de Bethléem. Les trois redéploiements à venir ne sont pas déterminés à l'avance. Aucune colonie ne sera abandonnée. Ce rappel est une véritable provocation pour les extrémistes. Clairement, Rabin cherche à les marginaliser en les traitant avec le mépris le plus total. Plus la droite parlementaire, qui reprend une bonne partie de l'argumentaire des radicaux, se compromettra avec eux, plus elle se discréditera. C'est une ligne de conduite risquée. La police israélienne s'inquiète du risque d'attentat contre un ministre, voire contre le premier ministre lui-même, qui concentre sur lui toutes les animosités. Mais Rabin reste imperturbable et déclare à la radio militaire, je cite, « Je ne suis pas inquiet pour ma sécurité personnelle. Personne ne me fera taire. J'ai connu des situations beaucoup plus dangereuses avec des bombardements et des tirs lorsque j'étais dans l'armée. » Depuis la fin septembre, les territoires palestiniens sont de nouveau sous bouclage, qui n'est levé que partiellement à la mi-octobre. Première année croche à l'accord, le président Weizmann refuse de gracier quatre prisonnières palestiniennes contrairement aux engagements pris. Cela pose d'ailleurs une question constitutionnelle sur les pouvoirs respectifs du président du gouvernement de la Knesset et des tribunaux militaires. Finalement, 1100 prisonniers sont libérés. Conformément aux accords, aucun d'entre eux n'a du sang sur les mains. Ils ont accompli les deux tiers au moins de leur sentence. Ils ont été emprisonnés 10 ans ou plus, ou bien ils ont 50 ans ou plus, 18 ans ou moins. Ou bien encore, ils sont malades ou en mauvaise santé. Près de 600 d'entre eux sont des détenus de droit commun dont les crimes et délits n'ont pas de rapport direct avec la lutte nationaliste. Tous doivent s'engager à ne plus se livrer au terrorisme et à la violence. 25 prisonnières se solidarisent des autres détenus et refusent de donner cet engagement. De son côté, Arafat négocie avec le Hamas un accord de réconciliation. Il libère un certain nombre de cadres et propose aux islamistes de participer au jeu des nouvelles institutions contre la suspension des attentats. On évoque la possibilité de former un parti politique qui se présenterait aux élections. Le gouvernement israélien le soutient en autorisant une délégation du Hamas à quitter la bande de Gaza pour pouvoir discuter avec la direction de l'extérieur. Oslo II a obtenu un soutien plus ou moins résigné d'une grande majorité des Palestiniens. Selon un sondage d'opinion fait les 6 ou 7 octobre, l'accord obtient l'approbation de 66% des interrogés, tandis que 16,4% s'y opposent. 69,3% estiment qu'il s'agit d'un pas en avant vers une réalisation partielle ou totale des aspirations palestiniennes d'un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. La moitié des opposants trouvent que la stratégie suivie par le Hamas ne mène à rien. La résistance islamique sait qu'au moins temporairement, elle est dans un rapport de force très défavorable. Tout en refusant toute reconnaissance de l'État d'Israël, certains responsables envisagent une trêve indéfinie fondée sur une dissuasion réciproque. Ils sont prêts à cesser toute action contre des civils pourvu qu'Israël fasse de même avec nos civils à nous. Fin de citation. On pourrait aussi limiter les actions armées aux colons et aux forces d'occupation, ce qui est beaucoup plus populaire que de s'en prendre au territoire palestinien proprement dit. Le 10 octobre, le redéploiement en zone B commence avec le village de Salfit près de Naplouse. 3 autres villages suivent. Déjà, on prend du retard sur le calendrier prévu, tandis que la question des prisonnières n'est toujours pas réglée. Le 25 octobre, l'armée israélienne commence son redéploiement de Jenin, première ville palestinienne de la zone A à être libérée. Rabin est conscient de la fragilité de sa majorité parlementaire. Il ne peut pas se passer des voix des deux députés travaillistes défenseur des colons du Golan. Il fait d'ailleurs porter la responsabilité de l'impasse des négociations israélo-syriennes sur Hafez al-Assad. Ce dernier a l'impression d'être régulièrement utilisé pour faire pression sur les Palestiniens et pour permettre l'ouverture du monde arabe à Israël. Dans un long entretien au journal égyptien El Aram du 11 octobre 1995, Assad fait une critique en règle du processus de paix qui, en ce qui concerne la Syrie, n'a pas pu progresser de depuis 4 ans. Élargeant la perspective, il s'en prend au moyen-orientalisme qui met en avant l'idée de Moyen-Orient au détriment de l'arabité et de l'arabisme. Il peut avoir à l'esprit l'idée suggérée par Shimon Peres qu'Israël intègre la Ligue des États arabes qui deviendrait une Ligue méditerranéenne. C'est pour cela qu'il refuse la présence de la Syrie au sommet économique de Amman qui doit être tenu à la fin du mois. Ce serait accepter la normalisation sans la paix. Il laisse entendre que les conditions de négociation de paix seraient meilleures après les élections israéliennes prévues pour novembre 1996, autrement dit qu'il vote Likoud. Le gouvernement israélien exprime son étonnement et rappelle que la droite israélienne refuse même le principe d'un retrait partiel du Golan. Le communiqué exprime avec lucidité les raisons de la passe. Le fond du problème, c'est que la Syrie cherche à tout prix à obtenir avant même que commencent les négociations. Que Syrie cherche à tout obtenir avant même que commencent les négociations. Damas veut qu'Israël annonce dès aujourd'hui qu'il est prêt à se retirer du Golan sur les lignes du 4 juin 67 et qu'il renonce à des stations d'alerte. Dans ce contexte, une série d'actions du Hezbollah dans la zone de sécurité provoque la mort de 9 soldats israéliens. Mais, comme c'est dans le cadre de la syntaxe d'un accord informel, il n'y a pas de représailles sur la population libanaise. On va passer au document Bailyn Abou Mazen. Le 23 octobre, Peres, à l'occasion de l'inauguration de la session d'hiver de la Knesset, reprend les arguments habituels sur le caractère intérimaire de l'accord. Il marque combien il s'inscrit dans la continuité des accords de Camp David conclus par Begin. Des négociations sur le statut permanent auraient mis en avant la question de Jérusalem, ce qui aurait mis fin au processus de paix. Oslo 1 et 2 ont mis de côté Jérusalem, qui a conservé son statut de ville unifiée et de capitale d'Israël. Les négociations ne sont pas une roulette sur laquelle on mise tous ses jetons d'un seul coup. Elles peuvent progresser pas à pas, il est possible d'arriver à régler 80% des dossiers sans aller plus loin. On pourrait vivre dans cette situation. Les positions israéliennes sont claires, faire de l'autonomie une réalité, ne pas gouverner un autre peuple, empêcher la formation d'un État binational, ne pas revenir aux frontières de 1967, maintenir Jérusalem unifiée comme capitale d'Israël. Au fond de lui-même, Peres envisage un État palestinien limité à la bande de Gaza, une sorte de condominium israélo-palestino-jordanien sur la Cisjordanie, tandis que la question de Jérusalem ne serait pas abordée. Pourtant, en octobre 1993, Yossi Beilin avait réuni la même équipe que celle d'Oslo afin de définir les caractères du statut final. On est d'abord passé par des rencontres de nature académique organisées par des centres de recherche israéliens. On a ainsi repris l'analyse des différents dossiers avec une approche pragmatique. On s'était rendu compte du risque de commencer sans préparation préalable les négociations finales en mai 1996, alors que les élections israéliennes étaient prévues en octobre. En revanche, si une entente est obtenue avant sur les principaux dossiers, on pourrait aller très vite et faire des élections israéliennes, une sorte de référendum que Rabin pourrait emporter avec une très large majorité. La Suède, jalouse du succès de la Norvège, propose ses bons offices. Les discussions commencent le 1er septembre 1994. Abou Mazen, qui est patron du côté palestinien, désigne deux représentants, Ahmad Khalidi, le fils de l'historien Walid Khalidi, et Hussein Aga, tandis que Hirschfeld et Pundak reprennent le rôle d'Oslo. Les rencontres secrètes se déroulent à Stockholm tous les mois. On échange propositions et contre-propositions. L'équipe israélienne prépare une carte fondée sur le moins possible d'annexion tout en intégrant le plus possible de colons. On arrive ainsi à 4% de la Cisjordanie, ce qui minimise le nombre de Palestiniens concernés. Cette carte peut correspondre à ce que Rabin a énoncé sans donner de précision. Reste à définir les compensations qu'obtiendraient les Palestiniens. Un corridor entre Gaza et la Cisjordanie, l'accès aux ports israéliens, un élargissement de leur territoire dans le Negev. Parallèlement, Beilin rencontre épisodiquement Abou Mazen et les autres experts, d'autres experts participent aux rencontres de la capitale suédoise, dont Faisal el-Husseini. Quand il devient ministre de l'économie, Beilin doit limiter ses rencontres à Jérusalem et Tel Aviv. Après la conclusion d'Oslo II, les discussions s'accélèrent. Le document Beilin-Abou Mazen est finalisé le 31 octobre 1995. Vous voyez la carte du document Beilin-Abou Mazen. Il se présente comme un accord cadre. Israël reconnaîtra l'État indépendant de Palestine avec Al-Quds, nom arabe de Jérusalem, comme capitale, avant le 5 mai 1999. Simultanément, l'État de Palestine reconnaîtra l'État d'Israël avec comme capitale Yerushalayim, nom hébraïque de Jérusalem. Les deux États reconnaîtront mutuellement le droit de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur des frontières mutuellement acceptées. Ils renonceront à l'usage de la force et lutteront contre toute incitation à la violence. Il y aura un passage extraterritorial entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. On fixe le calendrier des retraits et non des redéploiements israéliens entre le 5 mai 1999 et le 4 janvier 2000. Israël maintiendra des forces résiduelles et trois stations d'alerte. La vallée du Jourdain et la frontière israélo-palestinienne feront l'objet de patrouilles communes. L'État palestinien sera démilitarisé. Les Israéliens résidant dans l'État palestinien seront soumis à la loi palestinienne tout en pouvant conserver la nationalité israélienne. Jérusalem restera une ville ouverte et non divisée. La cité de Jérusalem sera répartie en quartiers palestiniens et israéliens. Leurs représentants éliront le maire de la cité de Jérusalem. Il y aura une sous-municipalité pour les Israéliens et une autre pour les Palestiniens, ainsi qu'un comité paritaire pour la vieille ville et un autre pour les affaires communes. La partie israélienne sera appelée Yerushalayim et la partie arabe Al-Quds. Le haram al-Sharif sera doté d'un caractère d'extraterritorialité. La partie palestinienne reconnaîtra que le droit au retour des réfugiés est impraticable. La partie israélienne, les souffrances morales et matérielles causées au peuple palestinien par la guerre de 1947-49. Les réfugiés auront le droit à des compensations définies par une commission internationale. Israël continuera d'autoriser la réunification des familles et absorbera des réfugiés palestiniens dans les cas déterminés avec la commission internationale. Les deux parties coopéreront dans la gestion des ressources en eau. L'État d'Israël facilitera le retour des colons dans son territoire. On définit les différentes étapes de l'application du document. Beilen et Abu Mazen savent que le texte en l'état ne sera pas accepté tel quel par leurs décideurs politiques, mais il peut servir de point de départ à la négociation sur le statut permanent. Il n'y a donc aucune urgence à le transmettre aux personnes concernées. Beilin attend ainsi son retour d'une mission aux États-Unis pour en informer Pérez, c'est-à-dire le 11 novembre 1995. Alors, bon, le document Beilin à Moumazen, évidemment, s'il n'a pas été appliqué, est un document essentiel parce que c'est le premier à présenter une solution définitive toutes les propositions jusqu'à aujourd'hui reprennent les catégories du document Beilin Abu Mazen. Donc, même s'il n'a pas été endossé, comme on le verra, par les politiques, il est le premier document de référence à ce qu'on verra l'année prochaine, comme étant ce qu'on appelle les paramètres de Clinton, qui donneront lieu, mais plus tard, hors dehors du cours, parce que j'ai l'intention d'arrêter à 2001, ça donnera ce qu'on appelle les discussions de Genève de 2003. Donc, comme on l'a souvent vu, le dossier palestinien sont composés de textes qui s'engendrent les uns les autres. Donc là, avec celui-là, on a le début d'une série de texte. Mais là, on va passer à des choses malheureusement plus sérieuses. Le 26 octobre, à Malte, Fathi Chikaki, le chef du djihad islamique, est assassiné, visiblement par un commando de professionnels. Il résidait habituellement à Damas et il s'était rendu en Libye pour tenter de persuader Kadhafi de mettre fin à l'expulsion des Palestiniens. Comme les pays sous embargo, seule la voie maritime était praticable. L'Égypte aurait interdit le passage par son territoire. L'organisation accuse immédiatement les services israéliens et menace de représailles. À la suite de ce crime horrible, tous les sionistes, où qu'ils se trouvent sur la surface de la terre, deviendront la cible de nos attentats spectaculaires et de nos corps qui explosent de colère. Fin de citation. Le 2 novembre, deux attentats à la voiture suicide font quelques blessés israéliens dans la bande de Gaza, les deux auteurs étant tués dans l'explosion. Le 29 octobre, s'ouvre à Amman la deuxième conférence économique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il s'agit de promouvoir le développement économique régional afin de renforcer le processus de paix. 2000 personnalités économiques et politiques internationales, arabes et israéliennes, sont présentes. Rabin et Peres dirigent la délégation israélienne. Ce dernier tente de démentir les projets de domination économique régionale qu'on en attribue à Israël. Même l'économique a des aspects politiques. Les Américains veulent imposer la création d'une banque pour le développement du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, dont le siège serait au Caire. Les Européens, qui sont les principaux payeurs, sont les moins enthousiastes et obtiennent que les négociations sur ce sujet dureraient jusqu'au 31 décembre. Français et Allemands trouvent que cette institution serait trop coûteuse et surtout ferait double emploi avec les organismes déjà en place dans la région. C'est que l'Europe prépare le lancement d'un processus dit de Barcelone le mois prochain destiné à créer un partenariat euro-méditerranéen, Euromed, sans les Américains. Les deux projets sont donc concurrents. Donc, vous voyez, vous avez une logique MENA, Middle East and North Africa, qui est le projet américain, et le projet EuroMed, qui est le projet européen. Évidemment, dans EuroMed, les Américains ne sont pas intégrés. Donc, il y a concurrence entre les deux projets, d'autant plus que les Américains veulent faire payer les Européens pour faire fonctionner MENA. La déclaration finale du 31 octobre 1995 privilégie l'expansion du secteur privé en partenariat avec le secteur public. On veut renforcer la coopération économique régionale en institutionnalisant grâce à différents conseils et bureaux. Les participants au sommet saluent les avancées du processus de paix et émettent l'espoir que la Syrie et le Liban concluent rapidement des accords de paix. Christopher se rend de Amman à Damas pour tenter de débloquer le dossier syrien. Mais chacun reste dans ses positions. Rabin laisse dire qu'il n'envisage plus de négociations avant la tenue des élections israéliennes de l'automne 1996. L'autonomie palestinienne suffit largement à faire débattre l'opinion publique. En Israël, la tension est très forte. L'opposition de droite extra-parlementaire multiplie les appels au meurtre. Là, vous avez un poster représentant Rabin en officier SS sur la photo. Et je me rappelle, moi, je me trouvais à Jérusalem ce jour-là, et en ouvrant le Jérusalem Post, il y avait un article, enfin, d'opinion, qui faisait l'apologie du tyrannicide. Un sondage à la fin d'août 1995 donne 0,7% de réponses positives à la question « Un assassinat politique serait un acte acceptable s'il met fin au processus de paix ?» Les courants les plus extrémistes obtiennent des sanctions religieuses rendant licite de tels actes. L'assimilation au nazisme redouble. La droite parlementaire dirigée par Netanyahou ne condamne que mollement de tels propos et tente de profiter de l'atmosphère ainsi créée pour faire tomber le gouvernement. Le gouvernement qui ne serait ni juif ni israélien, un gouvernement de traîtres, dans l'expression de Netanyahou. Rabin critique assez sévèrement ce comportement et l'accuse à la télévision de ne pas prendre ouvertement position contre l'extrémisme de droite, avant d'asséner qu'il ne discutera pas avec un hypocrite, même s'il s'attend à une prochaine escalade de la violence. À ceux qui l'adjurent de prendre plus de précautions, il répond « Je ne peux croire qu'un juif puisse tuer un autre juif ». On s'inquiète essentiellement des risques d'un attentat du djihad islamique. Face à ce déluge d'attaques, les stratèges du Parti travailliste proposent l'idée d'un grand rassemblement politique à Tel Aviv en faveur de la paix. Cela marquera aussi la récente mais réelle réconciliation entre Peres et Rabin. À la grande surprise des organisateurs, 100 000 personnes assistent à la réunion, audience considérable étant donné la taille de la population israélienne. Rabin se pose en héros de la paix et condamne la violence contraire à la démocratie israélienne. Les différends doivent être tranchés par les élections et non dans la rue. Il exprime sa fierté de voir présents des représentants de l'Égypte, de la Jordanie et du Maroc. L'OLP, qui a abandonné le terrorisme, est devenu un partenaire pour la paix. Il conclut « Voilà le message de ce rassemblement doit transmettre à tous ». À tous les Israéliens, à tous les Juifs de la terre, à tous les Arabes, au monde entier, la nation israélienne veut la paix. Et pour cela, merci, un immense merci à vous tous. L'enthousiasme du public est extraordinaire. Bouleversé, Rabin donne l'accolade à Peres. Lui, qui est très timide, accepte d'accompagner une chanson populaire pour la paix. En sortant de cette réunion, Rabin est assassiné de 3 coups de feu dans le parking où se trouve sa voiture. Il meurt de ses blessures quelques minutes après. L'assassin, Yigal Amir, un étudiant de 25 ans, arrêté immédiatement par la police, justifie son acte. « J'ai tiré pour sauver l'État d'Israël. Celui qui met en danger le peuple juif mérite la mort. » J'ai agi pour le salut de mon peuple. Le sacrifice de ma vie était le prix à payer pour que réussisse la mission que m'avait confiée Dieu. Je n'avais pas l'intention de fuir. Il est issu d'une famille yéménite de 8 enfants. Il a été formé dans les écoles juives orthodoxes. Il a fait son service militaire, prenant un vrai plaisir à brutaliser la population palestinienne de Gaza. Puis s'est inscrit dans l'université de Bar-Ilan, réputé être de droite. Il a commencé alors à militer pour la cause des colons. Il a organisé l'assassinat avec l'aide de son frère et a trouvé des précédents bibliques pour justifier un tel acte. Le choc moral sur la société israélienne est intense. On met en cause la violence morale des mois précédents et Rabin devient un martyr de la cause de la paix. Le Likoud doit rejeter avec véhémence les accusations d'avoir une responsabilité dans l'assassinat. Un sondage fait dans la semaine qui suit donne une approbation de 74% au programme d'autonomie. Un grand nombre de sceptiques s'y sont ralliés. Même les radicaux restent sur l'opposition sur l'illégitimité d'un gouvernement qui s'appuie sur les votes des députés arabes. Les plus extrémistes se réjouissent de la mort de Rabin. On développera par la suite toute une théorie conspirationniste faisant de l'assassinat une manipulation de Shin Bet. Cela se fonde sur le fait que Amir avait fréquenté un informateur des services secrets. L'État d'Israël procède à des furets solennels, tandis que Shimon Peres exerce l'intérim des fonctions de Premier ministre. Plus d'un million de citoyens viennent s'incliner devant la dépouille d'un homme qui symbolise toute l'histoire d'Israël depuis le mouvement sioniste. C'est un natif de la terre, Sabra, un pionnier des kibbutz, un combattant de la guerre d'indépendance, le vainqueur de la guerre de 1967, le monsieur sécurité, le promoteur du processus de paix. Le 6 novembre, un nombre considérable de chefs d'État viennent assister aux obsèques. On retrouve tous les symboles spontanés des décès par mort violente contemporains. Fleurs, bougies, pancartes, etc. Vous n'avez qu'à ouvrir vos téléviseurs ces jours-ci pour voir comment ce culte mondial de la mort violente est vraiment international, je veux dire. L'émotion est particulièrement intense dans la population arabe palestinienne. En dépit du passé de violence, en dépit du passé de violence de Rabin, on se souvient avant tout de l'homme du processus de paix qui s'est appuyé sur la représentation politique arabe. Les marques de deuil se multiplient spontanément, même dans la tendance islamiste. Pour une fois, on se sent une appartenance commune avec les Juifs israéliens, mais la déception ne tarde pas à arriver. Les médias israéliens ignorent totalement les manifestations de solidarité des Arabes israéliens. Le roi Hussein et même Hosni Moubarak, qui rompt avec sa ligne de conduite de ne pas se rendre en Israël, sont présents. Le second évoque le héros de la paix, tandis que le souverain hachémite déclare « Je n'aurais jamais pensé que le moment viendrait où je porterais le deuil d'un frère, d'un collègue et d'un ami, un homme et un soldat qui est venu à notre rencontre en franchissant le fossé qui nous séparait. » Oman, Qatar, la Mauritanie et le Maroc sont représentés. Cela dit, l'attitude des personnalités arabes venues à Jérusalem ne reflète pas celle de leurs opinions publiques. La presse arabe est plus critique, attribuant la mort de Rabin à la culture de la violence israélienne. Au Liban, l'assassinat est plutôt salué par des tirs de joie. Clinton exprime le sentiment des Américains. Les drapeaux américains qui flottent sur les bâtiments officiels dans la Maison-Blanche sont mis en berne. Je cite « Il était mon partenaire et mon ami. Je l'admirais et je l'aimais beaucoup. Puisque les mots ne peuvent exprimer mes vrais sentiments, laissez-moi vous dire « Shalom Avertov, au revoir mon ami ». Fin de citation. Arafat n'a pas été autorisé à se rendre à la cérémonie officielle qu'il a dû suivre à la télévision, les Israéliens invoquant des raisons de sécurité. Mais il a pu y déléguer des représentants. Il doit se contenter de présenter en privé un peu plus tard ses condoléances à la veuve de Rabin. Le roi Hussein, profondément choqué par l'assassinat de son ami, rentre dans son royaume décidé à mettre au pas les opposants à la paix avec Israël. Il les accuse d'être des forces de ténèbres, de destruction, de mort. Il s'en prend à la presse de toute tendance qui, comme l'opinion publique, rejette toute normalisation des rapports avec Israël et aux associations professionnelles qui interdisent à leurs membres, sous peine d'exclusion, tout contact avec l'État hébreu ce qui peut dans certains cas constituer une interdiction de travailler. On prépare ainsi une nouvelle législation répressive qui marque la contradiction entre la démocratie et le processus de paix. Donc là, nous avons évidemment une saisie parfaite pour terminer le cours d'aujourd'hui. Les deux dernières séances en janvier, enfin le 9 janvier, je vous le rappelle, nous ferons le gouvernement Shimon Peres, ce qui nous permettra de boucler le programme de cette année qui aura couvert l'ensemble du gouvernement travailliste et la période dit très intense d'événements dit du processus de paix. Je vous remercie, vous adresse mes meilleurs vœux pour les fêtes et pour l'année qui vient.